France Info.
Nathalie Arthaud avec nous ce matin, candidate à la présidentielle et porte-parole de Lutte Ouvrière avec Jean-François Killy et Guy Birenbaum.
Bonjour Nathalie Arthaud.
Bonjour.
Soyez la bienvenue. Vous irez manifester aujourd'hui sous la pluie contre la loi El Khomri.
Bien sûr, parce que c'est une attaque en règle contre les droits des travailleurs. Et le gouvernement a changé un peu de ton suite à la manifestation du 9 mars, parce qu'il y avait 500 000 personnes dans la rue. Eh bien, c'est la preuve qu'effectivement, le rapport de force compte et qu'il faut effectivement... Alors, c'est pas acquis tout double. Moi, j'espère que ça sera double, qu'il y aura encore plus de monde dans la rue aujourd'hui en grève. Oui, mais vous savez, c'est aussi les grèves, c'est aussi l'expression de cette opposition qui compte. Tout ça, ça sera donc comptabilisé. Et moi, j'espère que cette mobilisation, elle va s'amplifier. Qu'elle va s'amplifier parce que c'est pas seulement cette loi travail, mais c'est aussi toutes les mesures anti-ouvrières qu'on subit depuis 4 ans.
Encore un mot.
Et qui fait effectivement qui est favorable au patronat.
Vous avez vu qui est dans la rue, CGT, FO, Solidaires, FSU, les organisations de jeunesse, une partie de la gauche. Est-ce que c'est un mouvement un peu fourre-tout, comme l'a dit Laurent Berger de la CFDT?
Laurent Berger, lui, il fait le service après-vente de la politique du gouvernement et c'est quand même pas quelque chose de nouveau. Ce qui est sûr, c'est que, vous savez, c'est très simple. Il suffit de regarder ce qu'il y a dans cette loi pour comprendre que ça va faire reculer les conditions de travail, les conditions de vie des salariés.
Elle a été édulcorée quand même. Elle a été édulcorée. Regardez, plafonnement, les indemnités prud'homales, hop, c'est fini. Forfait jour, PME, c'est fini. 30 temps de travail, des apprentis mineurs, fini. Il y a des tas de choses en discussion. Apparemment, le groupe PS veut aller plus vers le travailleur que vers le patron. Franchement, elle a été un peu rétrécie,
absolument
cette loi.
Absolument pas. Non, le gouvernement a lâché un peu de lest sur effectivement quelques mesures, mais l'essentiel reste, c'est une loi qui va généraliser la flexibilité. C'est l'allongement du temps de travail, le passage à des journées de 12 heures, des séries de semaines de 46 heures jusqu'à 48 heures. C'est aussi la possibilité pour le patronat de faire son code du travail dans son entreprise, de déroger au code du travail, aux conventions collectives. C'est des heures supplémentaires qui seront moins majorées, 10%, alors qu'aujourd'hui, 25% est inscrit dans le code du travail. Y compris, vous savez, le gouvernement nous explique que c'est pour lutter contre la précarité. La réalité, c'est que les temps partiels, par exemple, pourront maintenant être inférieurs à 24 heures. Aujourd'hui, un temps partiel de 24 heures, c'est 750 euros.
Mais comment le référendum d'entreprise, avec tout ça, c'est pas bien, ça?
Non, ce n'est pas bien. Bon. Ce n'est pas bien parce qu'on sait très bien ce que... Y compris, vous savez, quand on nous explique qu'il faut du dialogue social.
Ça fait partie, non?
Dans une entreprise, est-ce qu'il y a de la démocratie? Est-ce que vous pensez que les caissières qui sont en CDD à Carrefour peuvent aller discuter d'égal à égal avec leur employeur? Que l'intérimaire qui remplit les chaînes automobiles aujourd'hui peuvent aller discuter, peuvent dire ce qu'ils pensent des conditions de travail, de leur salaire, de leurs horaires? Non, ce n'est pas une réalité.
Les syndicats, Nathalie Arthaud, sont aussi là pour ça. Les représentants du personnel dans les entreprises que vous citez, ça existe.
Vous savez, dans toutes les entreprises, regardez ce qui s'est passé ces derniers temps, il y a eu du chantage patronal. On proposait effectivement, on disait aux salariés, allez, dites-nous ce que vous préférez. Alors, vous préférez baisser votre salaire, allonger votre temps de travail, perdre des jours du RTT, ou alors vous retrouvez à Pôle emploi, vous retrouvez dehors parce que nous allons fermer l'entreprise. Ça s'est passé dans toutes les entreprises. Les accords de compétitivité, c'est du chantage patronal. Et ce dialogue social, c'est pour masquer, en réalité, le diktat patronale. Donc, y compris ces référendums d'entreprise, évidemment, il ne faut pas être dupe. Ceux qui protègent les travailleurs, enfin en tout cas qui peut être un levier pour que les travailleurs fassent respecter leurs droits, c'est effectivement ce code du travail, qui n'était déjà pas respecté dans beaucoup d'entreprises, mais qui restait un point d'appui, y compris pour les salariés des petites entreprises, compris pour ceux confrontés à la précarité.
Puisque vous parlez de salaire, que dites-vous à Carlos Tavares, le patron de PSA, et sa rémunération 2015 à 5,2 millions d'euros?
Évidemment, c'est scandaleux et je me souviens que le gouvernement Hollande s'était fait élire, en particulier en mettant en avant cette mesure qu'il plafonnerait les salaires exorbitants des PDG. La réalité, c'est qu'il n'en est rien. Et quand PSA a renoué avec les bénéfices, on a entendu, alors là c'était dans tous les médias, les efforts ont payé. Les efforts. Mais les efforts de qui? Les efforts, ça a été les efforts des salariés. Ça a été les efforts des ouvriers qui ont perdu des... D'abord, il y a eu des suppressions d'emplois. Vous savez qu'à PSA, ils ont supprimé 17 000 emplois sur ces trois dernières années. Il y a eu le blocage des salaires. Il y a eu des augmentations de cadence, des horaires. Alors, pour les ouvriers, oui, il y a eu des efforts. Mais pour eux, hein, ça n'a pas payé. En revanche, ben voilà, pour Tavares, c'est un doublement de son salaire. Et c'est d'ailleurs hallucinant, hein, ces sommes. Mais aussi, il faut bien comprendre que c'est pour les actionnaires. Parce que si les actionnaires votent ce genre de rémunération, c'est parce que Tavares leur rend un bon service et qu'eux-mêmes s'en mettent plein les poches. Donc effectivement, bah, c'est assez significatif de ce qui se passe, vous savez, dans beaucoup, beaucoup d'entreprises. Les licenciements, les efforts pour les salariés, et puis finalement les profits.
Madame Artaud, les actionnaires,
pour les dirigeants.
Les actionnaires, si j'enlève l'État, parce qu'on n'en a pas parlé, mais il y a aussi l'État qui a mis de l'argent, les actionnaires y mettent de l'argent. Il est assez logique qu'ils en reçoivent en retour. C'est ça, être actionnaire.
Mais justement, ce qu'on voit, c'est que les actionnaires, aujourd'hui, se comportent, aujourd'hui, c'est pas d'ailleurs nouveau, mais en véritable parasite. Voilà, c'est-à-dire que effectivement, eux, ils ne font rien de leurs 10 doigts. Ils ont juste eu la possibilité d'investir leurs millions, leurs milliards, parfois même hérités de leur dynastie familiale.
Mais là, vous parlez des grands actionnaires. La majorité, c'est pas les grands actionnaires.
Mais si, la majorité de ceux qui font aujourd'hui l'économie, c'est ces grands actionnaires, qu'on retrouve d'ailleurs actionnaires des groupes automobiles, des banques, des assurances, des trusts pharmaceutiques, c'est les mêmes. Ah, c'est ces grandes familles bourgeoises, vous savez, c'est pas un hasard qu'on retrouve 65 personnes possédant la moitié de ce que possède l'humanité.
Alors, le président François Hollande, c'est tout à fait autre chose, hier a clos le débat sur la déchéance de nationalité qui a divisé pendant 4 mois la classe politique. Le chef de l'État a pris la bonne décision, Nathalie Arthaud.
Je crois surtout qu'il a essayé de faire un coup politique en allant reprendre une mesure de droite et même du Front National. Et puis finalement, c'est un fiasco aujourd'hui. Il a ce qu'il mérite. Mais en même temps, ça laisse des traces tout ça. Ça laisse des traces parce que justement, quand on voit que Hollande, Valls a voulu surfer de façon démagogique, de façon odieuse sur l'émotion suscitée par les attentats et que tout ça, ça a participé à alimenter la suspicion, l'amalgame entre les binationaux, les terroristes, eh bien ça fait le jeu de qui ? De qui est-ce que cela fait le jeu? Ça fait évidemment le jeu du Front National. Oui. C'est ça le problème. Donc, c'est cette mesure, tout le monde l'avait dit, c'est symbolique. Bon. Mais justement, ça véhicule le petit poison.
Vous êtes soulagé que ça soit fini, vous êtes soulagé. C'est la bonne décision.
Moi, j'étais scandalisé. Scandalisé par ce débat et par cette polémique et par cette déchéance, en fait, du gouvernement lui-même et du Parti Socialiste en particulier.
Est-ce que ça joue pas quand même contre vous et contre les manifestations de la loi de travail aujourd'hui? Il peut pas y avoir deux reculades de cette ampleur-là en un seul mois.
Vous savez, ça, c'est une question de rapport de force. La réalité, c'est qu'effectivement, les travailleurs, ils représentent une force numérique. Aujourd'hui, cette loi est... Tous les travailleurs, qu'on soit précaires, les jeunes comprennent bien que c'est contre leur intérêt. Aujourd'hui, nous sommes nombreux à dire non, à refuser. Eh bien, il faut se mobiliser avec détermination. C'est cela qui jouera. Parce que la réalité, c'est que tous les gouvernements qui ont été confrontés à des levées massives des travailleurs ont dû reculer. Donc, le problème surtout, c'est que cette journée, qui sera une journée réussie, je pense, parce qu'elle a été préparée de longue date. Mais oui, mais elle a été préparée. Nous, on le sait. Il faut qu'elle ait aussi une suite. C'est-à-dire qu'on monte notre détermination, c'est une évidence que le gouvernement ne reculera pas ce soir. Donc il faut aussi se préparer à un véritable bras de fer. À un moment donné, il faut dire stop à tous ces reculs, ça suffit.
On évoquait le débat sur la déchéance il y a un instant, on va parler de la présidentielle, mais juste une question, que dites-vous des propos de Laurence Rossignol qui était invitée chez Gigi Bourdin et qui a comparé les femmes qui portent le voile aux nègres américains, je la cite, qui étaient pour... l'esclavage. Vous l'avez entendu, la ministre des Familles, de l'Enfance, du Droit des Femmes?
Non, je ne l'ai pas entendu.
Sur la question du voile. Oui.
La question du voile.
Il y a les propos et il y a la question du voile. Voilà.
Alors, les propos, moi, je ne les ai pas entendus. Mais en ce qui concerne le voile, nous avons, nous, toujours dit que le voile, c'était le symbole de la soumission des femmes.
Vous êtes d'accord avec elle.
Et nous sommes pour que les femmes, au contraire, elles s'émancipent, pour qu'elles se battent pour leur liberté, pour qu'elles se considèrent à l'égal des hommes. Et ça, c'est un combat qu'il faut continuer parce qu'on voit qu'il y a beaucoup à faire encore aujourd'hui. Voilà. Alors, je me garderai de comparaisons qui pourraient, je sais pas, être mal comprises ou humiliantes, je ne sais pas. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que nous militons pour l'émancipation et l'égalité entre les hommes et les femmes.
On rencontre couramment dans nos quartiers des musulmanes qui nous disent qu'elles portent le voile de façon totalement libre et sans avoir besoin de quelque émancipation que ce soit, et qu'elles le portent parce qu'elles l'ont décidé.
Oui, c'est vrai. Et en même temps, on peut quand même se poser la question, pourquoi les femmes? Pourquoi les hommes ne seraient-ils pas voilés? Pourquoi les femmes devraient-elles se cacher? Tout ça, c'est derrière tout cela, il y a effectivement cette idée fondamentale de la place des femmes dans la société. Donc moi, j'ai envie de discuter avec ces femmes. J'ai envie de les convaincre que tout ça, c'est ce qu'on nous met dans la tête. Effectivement, ce sont des pressions sociales auxquelles il faut résister.
Oui, il faut faire aussi le distinguo entre le petit voile et le voile intégral. C'est un débat qui mélange un peu tout trop souvent.
Oui. Oui, d'accord, mais comme je vais pas me répéter, voilà, je
on
pense.
On s'est bien compris.
Vous savez, il y a des femmes qui se sont battues pendant des années pour justement se libérer et pour ne pas avoir à porter ce voile. Je crois que ça signifie quelque chose.
Bien compris votre point
aujourd'hui.
De vue. Nathalie Arthaud, vous voilà de nouveau candidate à l'élection présidentielle. C'est pour 2017. Vous êtes dans la trajectoire de votre illustre prédécesseuse Arlette Laguiller. Allez-vous peser combien? Zéro. La dernière fois, c'était 0,56. Les régionales, 1,5. Ça progresse. Pourquoi est-ce que vous ne feriez pas une sorte d'alliance avec d'autres personnalités, type Monsieur Jean-Luc Mélenchon, une sorte d'alliance de tout ce qui est à la gauche du PS pour peser plus dans le débat présidentiel?
Parce que justement, nous restons fidèles à nos idées, à nos convictions, et nous continuerons de dire aux travailleurs qu'il faut qu'ils mettent en avant leurs intérêts, et surtout qu'ils aient conscience que les choses ne changeront que si...
C'est ce que dit Philippe Poutou aussi au NPA, c'est ce que dit Jean-Luc Mélenchon.
Mais ne mélangez pas tout. Pourquoi ? Ne mélangez pas tout. Jean-Luc Mélenchon veut se faire élire en expliquant que lui, il fera mieux que Hollande au pouvoir, etc. La réalité, c'est que la situation, la vie politique, la vie changera pour les travailleurs s'ils se battent à nouveau pour leurs droits, s'ils se mobilisent, s'ils luttent pour
ne pas accepter... Vous seriez plusieurs à le dire, ça pèserait plus.
Mais Jean-Luc Mélenchon ne dit pas cela, c'est ce que je suis en train de vous expliquer. Jean-Luc Mélenchon nous explique qu'il suffira de voter pour lui, qu'il sera meilleur que les autres et qu'il en fera rabattre à tous ces grands groupes capitalistes, etc. Mais la réalité, c'est que non, face à ces grands groupes capitalistes, face à cette force sociale que représentent les grandes banques qui tiennent les cordons de la bourse, il n'y a qu'une seule force. C'est la force des travailleurs mobilisés. Regardez ce qui s'est passé en Grèce. Je ne dis pas que c'est nous. Je dis simplement que ma candidature, elle exprimera cela. Et j'espère que les travailleurs s'en saisiront pour mettre en avant cette perspective-là, effectivement, des luttes sociales et d'avoir à défendre leurs intérêts. Parce que justement, il y a des intérêts de classe dans cette société. Il n'y a pas d'intérêt général. C'est pas vrai. Parce que l'intérêt général, quand on parle pour les intérêts de la nation, etc., c'est toujours pour une minorité. Pour les Bettencourt, mais surtout...
Donc c'est toujours la lutte des classes.
C'est toujours la lutte des classes, évidemment. Donc, vous savez, quand on est salarié dans une entreprise, qu'on voit cette guérilla permanente qui est faite pour raboter des temps de pause, pour diminuer les salaires, pour supprimer des primes, pour allonger le temps de travail, c'est la lutte de classe, bien sûr. Et cette lutte de classe, vous savez, elle s'exprime dans la société. On voit ce fossé qui se creuse entre, d'un côté, les salariés, les chômeurs, les précaires, et puis de l'autre côté, ceux qui sont richissimes.
Merci à vous, Nathalie Arthaud.
Et il est 7h59 sur France Info.